Il est en ligne. Dominique Lavoie, bonjour.
Bonjour.
Bon, donc, on va tenter de cadrer cette entrevue-là. D'abord, je vous demande, est-ce que présentement, la pénurie d'emplois vous empêche d'opérer là dans votre pleine mesure?
En fait, nous empêche pas d'opérer, nous empêche de croître présentement. Donc, il y a beaucoup de contrats, le marché est bon, la reprise est présente présentement, puis c'est plus cette limite-là qui nous empêche d'avancer, donc de trouver des travailleurs pour opérer dans nos installations.
Bien. Qu'est-ce qui fait que présentement, il y a cette difficulté-là pour les transformateurs? Et quand je parle de transformateurs, il y en a qui transforment le bois pour en faire des portes et des fenêtres, il y en a d'autres qui transforment le verre ou qui font du verre pour fabriquer des produits à diverses fonctions. À l'heure actuelle, donc, malgré de bons salaires, malgré de bonnes conventions collectives, il continue de manquer de monde.
Oui, ben en fait, ce qu'on voit, c'est que le secteur manufacturier n'a jamais été un secteur qui était réputé comme sexy, je dirais. Donc, c'est pas nécessairement le choix naturel des gens dans leur domaine d'études à l'école de se diriger vers un secteur qui est manufacturier. On est peu connu. On a peut-être une vieille réputation, qu'on a un environnement qui est sale, qui est difficile. Fait que je pense que c'est notre réputation qui nous précède présentement, une réalité qui a vraiment changé aujourd'hui.
Ouais. Et justement, à quoi elle ressemble cette réalité-là là, de 2021, bientôt 2022? Les travailleurs, puis là, vraiment, on va sortir de la généralité, puis on va parler plus de chez vous, parce que vous ne pouvez pas parler pour les autres, là. Mais à quoi elle ressemble chez vous, cette réalité-là de 2021, bientôt 2022? En termes d'équipement, en termes de conditions de travail, en termes d'environnement de travail.
Exact. Donc, nous, en fait, nos usines, c'est un environnement qui est propre. On travaille le verre. Donc, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'odeur. Donc, l'environnement propre, l'environnement où les méthodes de travail ont beaucoup changé, beaucoup moins, encore un travail physique, mais beaucoup moins qu'à l'époque. On a maintenant des systèmes de manipulation qui permettent de lever des charges pour nous. On parle de plus en plus d'équipements qui sont automatiques, sont semi-automatiques, donc plutôt des opérateurs que des gens qui manipulent le verre. Donc, de ce côté-là, la charge de travail a énormément évolué dans un environnement qui s'améliore beaucoup dans le but de s'assurer que nos employés sont bien et de s'assurer que la qualité de notre produit s'améliore avec le temps.
Ouais. Vous venez de signer une convention collective, là, c'est tout récent. Un employé au bas de l'échelle chez vous, ça part à combien?
Il n'y a personne qui rentre chez Prelco en bas de 20$. Okay. Tout prochainement, les nouveaux employés vont commencer autour de 21$. Salaire moyen autour de 27$. Puis un opérateur va gagner au-dessus de 30$. Donc, on considère qu'on paye bien pour le travail qui est fait en usine chez Prelco.
Ouais. C'est intéressant d'aborder cette question-là. Vous avez dit qu'il y a de moins en moins de manipulation. Vous me reprendrez si je me trompe. Vous avez dit qu'il y a de moins en moins de manipulation. Il y a de plus en plus d'opérations là, sur le plan technique à faire. Est-ce que ça, d'une certaine manière, quand on se modernise, ça fait appel à d'autres types de travailleurs? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a 25-30 ans passés, ou peut-être même moins que ça, là, mais mettons 25-30 ans passés, on pouvait engager tout plein de journaliers qu'on était capable de former en entreprise, alors que maintenant, on a besoin d'employés qui sont à l'aise avec l'informatique, qui sont à l'aise avec l'électromécanique. Est-ce que ça, c'est venu quelque part accentuer la difficulté de recrutement? Parce que s'il y a moins de monde, c'est l'exemple que je prends là, en électromécanique, en formation professionnelle, puis que c'est de ça dont vous avez le plus besoin, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, on a des problèmes là.
Oui, ben en fait, c'est certain qu'on cherche des électromécaniciens, on cherche des gens de maintenance, on cherche des gens un peu plus spécialisés, mais la majorité de nos postes, nous, quand les gens rentrent chez Prelco, il n'y a personne qui connaît le domaine du verre.
Ouais.
Ça ne s'apprend pas à l'école, il n'y a pas d'autres fabricants dans notre région ou à peu près pas. Donc, on est habitué, puis c'est encore notre réalité et on a monté nos plans de formation en conséquence. Donc, les gens rentrent avec aucune expérience dans le domaine du verre. C'est pas un prérequis. Aucune expérience en électromécanique ou en opération de machines à commande numérique, ce n'est pas un prérequis. On forme à l'interne. Et on a monté des façons de faire, que ce soit en compagnonnage, avec une approche plus structurée de formation, ce qui fait que quelqu'un qui vient du domaine de la restauration, qui vient du domaine agricole, peut rentrer facilement chez Prelco et au bout de 3 à 6 mois, même pouvoir aspirer à postuler sur un poste d'opérateur. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tout à l'interne. On est habitué de faire ça.
Oui. Dans votre domaine, comme dans d'autres, c'est intéressant de mentionner ça parce que on sait, si on regarde, par exemple, dans le domaine du papier, pâte et papier, on a mis à la disposition de ces entreprises-là des formations, que ce soit ou de la formation professionnelle ou encore du collégial. Donc, dans votre domaine, comme encore dans bien d'autres d'ailleurs, il n'y a pas de formation qui se donne pour ça. D'après vous, pourquoi il n'y a pas de formation? Est-ce que c'est parce que le nombre d'entreprises qui fabriquent ou qui transforment du verre au Québec n'amènerait pas assez de monde sur les bancs d'école pour que ce soit intéressant? D'après vous, pourquoi cette formation-là, on ne la donne pas alors que pâte et papier, on la donne?
Ben, je pense que vous avez une partie de la raison. Il y a peu de transformateurs de solutions verrières au Québec. Donc, je vois pas qui, justement, irait là. De l'autre côté, même s'il y avait une formation, ce qu'on fait chez Prelco est tellement spécialisé de dire c'est pas vrai qu'un employé, qu'un travailleur rentrerait chez Prelco réellement avec une base qui serait significative. On préfère former selon nos façons de faire, selon notre réalité. Fait qu'on n'y voit pas nécessairement un plus qui est éventuellement un programme de formation spécialisé au domaine du verre.
Je comprends. Question que les gens peuvent se poser, incluant les gens intéressés à aller travailler chez vous. Chez Prelco, là, puis je pose la question, puis je connais vraiment pas la réponse. J'ai jamais mis les pieds chez vous. Je sais pas de quoi l'usine a l'air.
Vous viendrez faire votre tour.
Ouais. Est-ce que le verre, est-ce qu'on le fait chez Prelco, c'est-à-dire la matière première là qui est de faire fondre et de fabriquer de la vitre, est-ce qu'on l'a fait chez Prelco? Expliquez-nous ça.
En fait, on ne fabrique pas le verre chez Prelco, on le transforme. Donc, il n'y a plus aucun producteur de verre primaire au Canada depuis environ une quinzaine d'années. Donc ça n'existe plus au Canada, principalement fait aux États-Unis ou en Europe. Donc, nous, on reçoit le verre en matière première, donc déjà sous forme de verre, et on le transforme pour arriver à un produit fini qui est prêt à être installé par nos divers clients.
Ouais. Ça a l'air de quoi la matière première?
C'est des grandes feuilles de verre. Donc, le verre est déjà en feuilles. Les feuilles peuvent faire jusqu'à plus de 5 mètres de long, donc au-dessus de 204 pouces de long. Donc, c'est des très, très grandes feuilles de verre qu'on va manipuler, qu'on va tailler, qu'on va vraiment appliquer des procédés thermiques pour transformer la matière dans le but de l'application finale.
OK. De quoi vous avez le plus besoin de ce temps-là? Parce que, bon, on a parlé d'électromécanique tout à l'heure, mais on a parlé aussi d'employés qui peuvent être formés en entreprise. Est-ce que vous êtes capable de nous quantifier ça ce matin, de nous dire, mettons, ben j'aurais besoin de 3 électromécaniciens, puis j'ai besoin de 25 personnes qu'on peut former en entreprise. Êtes-vous capable de nous quantifier ça?
Oui, tout à fait. En fait, on parle qu'on a environ une quarantaine de postes d'ouvert, tout poste confondu présentement chez Prelco. Sur les 40 postes, on parle d'environ une trentaine de postes en usine, donc journalier ou opérateur, pour ces 30 postes-là, on n'a pas besoin d'aucune formation particulière. Puis après ça, environ une 10-15 postes un peu plus spécialisés. Que là, oui, on parle d'électro, on parle de gens qui font l'optimisation, le planning. On a aussi des besoins dans les bureaux, évidemment. On parle de gens aux achats, aux services clients, en direction d'usine, en maintenance. Donc, de ce côté-là, on est assez diversifié dans nos besoins, mais c'est sûr que le besoin principal présentement, on parle d'opérateurs et de journaliers en usine. Mais tous ces postes-là, en fait, sont bien décrits sur notre site Internet.
Ouais. Je voudrais, pour terminer l'entrevue, revenir sur le début de l'entrevue. Vous avez dit, ça ne ralentit pas nos opérations présentement, ça ralentit notre progression. J'imagine que de dire non à un client parce qu'on n'a pas ce qu'il faut en termes de main-d'œuvre pour produire, ça a des conséquences. Un client perdu, est-ce que c'est automatiquement un client qui ne reviendra pas?
Pas nécessairement automatiquement. C'est certain que nous, dans notre domaine, on doit être là. Le délai de livraison est très, très important. Par exemple, quand on fait des tours à bureau, des tours à condo à New York, Avant de prendre un contrat, il faut garantir qu'on va être capable de livrer. Donc, si nous, on n'est pas capable de garantir qu'on est capable de livrer, ben souvent, on est plus frileux à prendre un contrat. Mm-hmm. Parce que si on n'est pas capable de livrer, l'impact financier pour Prelco peut être énorme à New York. Donc, les gens vont se dire, bon, ben peut-être que dans le futur, je ne ferai pas affaire avec eux, puisque m'ont dit qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas capables de me livrer. Donc, c'est cet impact-là qu'on sent qui nous fait être un peu plus prudents qu'habituellement sur sur les nouveaux marchés, sur les nouveaux contrats qu'on veut soumissionner. On est plus prudents.
Ouais, en termes d'approvisionnement de ce que vous avez besoin pour votre produit final, est-ce que vous êtes dans un domaine où ça s'étire en longueur parfois, ou ça sème de l'inquiétude par rapport à ce dont vous avez besoin pour fabriquer votre produit final?
Oui, la chaîne d'approvisionnement est vraiment très stretchée présentement. On a une équipe d'approvisionnement qui fait des miracles jour et nuit présentement. On avait pris le choix déjà dans les dernières années de se retirer le plus possible de l'Asie, de la Chine. Donc, on est très content d'avoir pris cette décision-là aujourd'hui, puisque c'est là que c'est le pire côté chaîne d'approvisionnement.
Ouais.
Mais présentement, c'est difficile d'avoir de tout, qu'on parle pas juste du verre, mais toutes les composantes qui vont rentrer dans nos assemblages. Tout est difficile à obtenir, mais jusqu'à présent, je pense qu'on fait une bonne job puisqu'on n'arrête pas de chantier, on n'arrête aucun contrat parce qu'on manque de matériel.
Hey, en terminant, M. Lavoie, parce que le monde aime ça, entendre ça, ces affaires-là, ça attire toujours l'attention. Dans les 10 dernières années, mettons, là, quels ont été vos contrats les plus spectaculaires, soit en termes de lieu, en termes de bâtisse, quels ont été dans les 10 dernières années, mettons, le top 3 de vos contrats les plus spectaculaires?
Ben, c'est certain qu'on est bien fiers d'avoir participé à la nouvelle construction des tours du World Trade Center. Donc, on a participé aux 10 premiers étages, donc l'entrée où il y avait du verre très, très spécifique. C'est nous qui avons fait ça à New York. Donc, de ce côté-là, une belle fierté.
Ouais.
Ensuite, dans le bateau récréatif, c'est nous qui fabriquons et concevons les bateaux de wakeboard. Donc, les gros bateaux haut de gamme où on peut faire du surf en arrière des bateaux, c'est nous qui fabriquons les pare-brises pour les plus gros fabricants dans le monde. Donc, ça aussi, c'est une belle fierté. Puis, dans le train, quand on parle d'un train présentement qui roule en Malaisie, donc, c'est nos pare-brises, c'est nos fenêtres. Donc, on va pouvoir exporter nos produits jusqu'en Asie. Habituellement, c'est le contraire. C'est les Asiatiques qui viennent au Canada. Donc, ça aussi, c'est une belle fierté pour nous d'avoir pu changer ça de bord puis livrer en Malaisie.
Puis, vous avez aussi de la baie vitrée, j'imagine bien, dans quelques arénas de l'Amérique du Nord.
Certainement. Donc, quand il y en a une qui casse, on est bien content.
Merci, M. Lavoie.
Merci, bonjour.
Dominique Lavoie, président et chef de direction chez Prelco.